Donc, est-ce que quelqu'un connaît cette statue? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon, je vois que personne ne la connaît. Bon. Vous en faites pas, c'est pas grave. En fait, c'est un forgeron qui est en train de transformer une épée en soc de charrue. Et cette statue, elle se trouve devant le siège des Nations Unies à l'ONU, à New York. Et cette statue a été offerte par l'URSS, au moment où la Russie s'appelait l'URSS, aux États-Unis en guise de témoignage pacifique en 1959. Et en fait, ça se base sur un verset biblique qui est Ésaïe chapitre 2, verset 4. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples, de leur épée ils forgeront des socs de charrues, de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et on n'apprendra plus la guerre. Donc c'est dans le livre d'Ésaïe que se trouve ce verset et ça a été repris pour la constitution de cette statue, mais c'est aussi quelque chose qui était une sorte de slogan à l'ONU pour sa conception et la façon de fonctionner. Et ce qui est intéressant de noter, et j'ai trouvé cette remarque en fait quand j'ai fait une recherche, c'est que même un non-chrétien, j'imagine, il a donné cette information-là, il dit, la notion de justice est ici clairement associée à l'établissement de la paix. Sans justice, il n'y a pas de paix. Et je trouve qu'il a très bien compris le message biblique. C'est si on n'a pas un Dieu qui est juste, il ne peut pas y avoir de paix. Et est-ce que vous savez que en l'année 2021, donc l'année dans laquelle nous sommes, a été proclamée par l'ONU année internationale de la paix et de la confiance? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué une différence entre janvier et aujourd'hui. Moi, pas trop, mais en tout cas, c'est un bon vœu. Mais c'est là qu'on voit que bon, on peut avoir des aspirations humaines à la paix, à la confiance, mais c'est seulement Dieu qui peut nous la donner. Et je vous invite à simplement prier. Oui, Père, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, qu'on puisse être à ton écoute et que nous puissions être assoiffé de ta justice, de ta paix, de ta réconciliation, et que ce matin, tu nous permettes à chacun et chacune de prendre une parole qui vient de toi pour faire un pas de plus, et aussi que tu puisses transformer nos cœurs pour que nous soyons de plus en plus attirés par ce qui est bon, qui vient de toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous ne l'avez pas encore fait, donc Éphésiens au chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 11. Donc j'ai appelé cette prédication une nouvelle famille issue de tous les peuples. Verset 11. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les sépare, qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant en un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et c'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est tout un programme, hein ? La semaine dernière, on a vu qu'on était tous concernés par le péché, et là, Paul, il parle en fait de la situation en fait des peuples qui ne sont pas juifs. Et c'est là qu'on apprend que Jésus réunit tous les peuples. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui sont dans leur corps par la main de l'homme. En fait, les peuples étaient séparés les uns des autres. Cette séparation a été littéralement physique par la circoncision du peuple juif, ce que les autres peuples ne faisaient pas. Et Dieu a donné le fait de la circoncision aux juifs comme une alliance perpétuelle à refaire tout, de génération en génération, par tous les descendants d'Abraham. Et cela date du livre de la Genèse au chapitre 17, où Dieu dit « Vous vous circoncirez et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous ». Dieu a choisi Israël comme un peuple qui vivrait de manière différente de tous les autres peuples, parce qu'il les a choisis. Mais en fait, le but de Dieu, c'était que toutes les nations regardent à Israël pour savoir que Dieu est là et que Dieu les conduit de manière différente. Qu'auprès de Dieu, il y a la paix, il y a la confiance, il y a la sécurité, il y a aussi une façon différente de vivre sa vie. Et c'est pour ça que Dieu a choisi ce peuple, pas parce qu'il le méritait, mais Dieu lui-même le dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, « Je vous ai choisi parce que je vous ai aimé. » Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié au mérite. Mais au fil du temps, Israël a perdu cette conscience de cette vocation particulière auquel Dieu les appelait, pour plutôt y voir une sorte de favoritisme. Vous savez, un peu comme dans la classe d'école, quand la maîtresse a son chouchou, il commence à voir ça comme ça. En fait, non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a choisi une seule nation pour démontrer sa gloire à tous les peuples et son amour à tous les peuples. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, ça s'est étiolé et cette conscience s'est perdue. Et je vous cite un théologien qui s'appelle Barclay, qui explique un peu l'ambiance qu'il y avait de ce temps lorsque Paul écrit ces quelques phrases. Les Juifs éprouvaient un profond dédain pour les païens. D'après eux, les païens avaient été créés par Dieu pour alimenter le feu de l'enfer. Toujours selon eux, de toutes les nations qu'il avait faites, Dieu n'aimait qu'Israël. Il n'avait même pas permis à un juif de venir en aide à une femme païenne au moment de son accouchement, car c'eût été favoriser la venue au monde d'un païen supplémentaire. Jusqu'à la venue de Christ, les païens ont été l'objet du mépris des juifs. Une barrière infranchissable s'était dressée entre les deux communautés. Comprenez bien que ça avait beaucoup c'était ça l'ambiance, en tout cas la façon de voir les juifs, les païens. Et ça allait jusqu'au fait de ne pas pouvoir rentrer dans la maison d'un païen, parce que sinon il y avait comme ce côté d'être contaminé. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme se mariait avec un non-juif, les parents célébraient symboliquement leurs obsèques, parce que pour eux, ils n'existaient plus. Et pour relativiser quand même, parce que les Grecs ont aussi leur part dans l'affaire, leur conception du monde est expliquée comme ça par un homme d'État romain qui s'appelait Cicéron. Il décrit ainsi les Grecs. « Comme disent les Grecs, l'humanité entière est divisée en deux groupes, les Grecs et les barbares. » Donc, à ça, vous rajoutez des différences avec des ultra-riches, des ultra-pauvres, des esclaves, des citoyens, des résidents temporaires. Et ça vous donne l'ambiance qu'il y avait dans l'église à Éphèse. Imaginez toute cette mixité avec aussi tous ces a priori les uns sur les autres. Et pour autant, ils se retrouvent comme nous aujourd'hui. C'est là qu'on se dit, finalement, mon église, ça va. On peut relativiser un peu, mais imaginez juste les divisions qu'il y a dans cette église, des divisions ethniques, culturelles, sociales. Et c'est pour ça que Paul leur rappelle aussi à ces païens, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les peuples non-juifs étaient séparés de Dieu. Les non-juifs ne pouvaient pas profiter de ces avantages que les juifs possédaient, sans Messie. Pour les peuples, y compris tous les peuples, y compris le peuple juif, sont concernés par le péché. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On est tous pécheurs, on a tous besoin de Dieu. Toutefois, la grande différence, c'est que les non-juifs, ils n'avaient aucune attente d'un grand libérateur qui viendrait les sortir des ténèbres du péché, de la boue du péché. C'est un peu comme si vous ne saviez pas que les pompiers existent. Vous avez, aujourd'hui, ben moi par exemple, j'ai un feu dans ma poubelle à côté de la maison. Je me dis, bon, ben, j'appelle les pompiers, ils vont venir dans quelques minutes, ils vont l'éteindre. Mais si vous ne savez pas que les pompiers existent, vous les appelez pas, le feu se répand partout, vous n'avez aucun espoir. Et ces personnes-là n'avaient aucun espoir de voir les pompiers arriver pour les sauver. Et ce grand sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il faut comprendre que dans la philosophie grecque aussi, il y a cette pensée que le corps représente ce qui est mauvais, tandis que l'esprit représente la pureté. C'est un peu comme si le corps était un frein à l'esprit, que c'est ça qui faisait qu'on faisait les choses mal ou qu'on était lent dans notre façon de faire les choses. Et cette pensée s'est progressivement introduite même dans l'Église par des hérésies où on essayait de dire « finalement, c'est pas grave si je fais des péchés parce que c'est que mon corps, moi, je suis très saint à l'intérieur. » Mais aussi, ça a entretenu un modèle de société qui dévalorise les travaux manuels et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à il y a encore quelques années, et puis peut-être même encore aujourd'hui, c'était super mal vu de faire un apprentissage, par exemple. Vous voyez comme quoi il y a des choses qu'on traîne pendant des siècles. Puis en plus de ça, les Grecs, ils avaient différentes divinités inventées par les Grecs, mais en fait, finalement, c'était quasiment que des représentations humaines de leur faiblesse, de leur péché, de leur combat. Ce n'était pas vraiment un endroit où on pouvait être réconforté. Je vous donne juste un exemple, il y en a des bien plus gores. Par exemple, Atrée, après avoir massacré les enfants de son frère, lui laissèrent à manger. C'était ça la mythologie grecque. C'est pas très réconfortant. Ce sont des croyances qui sont dirigées par la peur et le désespoir. C'est ça, vivre sans Messie. Non citoyen du peuple d'Israël, Dieu a formé la nation d'Israël et c'est lui-même nommé roi de ce peuple. Ça donne une proximité parce qu'on peut s'adresser à ce roi. Il nous donne des directives, on sait comment vivre. Il nous donne un modèle social où même les animaux ont le droit de se reposer pendant le week-end. Quel autre peuple propose cela ? Non au bénéfice des alliances contractées par Dieu avec Israël, c'est-à-dire des promesses fortes. C'est cette promesse qu'on a déjà vue avant dans Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation. » Dieu s'adresse à Abraham. « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Ça, c'est une promesse. Quand Dieu te dit « Toutes les familles de la terre seront bénies par toi », ça, je pense que ça encourage. C'est une promesse forte que Dieu sera là de génération en génération. Sans espérance. Que pouvait-il espérer, sinon pas trop souffrir et profiter un peu de l'instant présent ? Est-ce que ça ne représente pas un peu, finalement, la pensée d'aujourd'hui ? On profite parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura demain. C'est ça, vivre sans espérance. Et je pense la phrase là, peut-être une des plus tristes finalement du Nouveau Testament, peut-être même de la Bible, sans Dieu dans le monde, n'ayant aucune espérance et sans Dieu dans le monde. Ce sont vraiment des mots tristes parce que finalement c'est vivre dans un monde qui est méchant, cruel, violent, où il y a l'injustice, la calomnie, la haine, la guerre, la solitude, la souffrance, la maladie, puis la mort. Affronter toutes ces épreuves, toutes ces angoisses, sans Dieu, sans espoir de vie éternelle, à quoi bon la vie ? Mais Paul leur dit, mais souvenez-vous, où serions-nous si Dieu ne nous avait pas arrachés à la fosse dans laquelle nous étions dans nos péchés. Si nous oublions, nous devenons tièdes, nous devenons mous à l'égard de la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Nous perdons notre joie de notre salut. Nous perdons notre faim, notre soif de connaître Dieu. Nous perdons notre motivation à partager l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Souvenez-vous, fait allusion à notre situation désespérée quand on ne connaît pas Dieu, avant que Dieu nous sauve. En Romains, au chapitre 9, il est dit cela. Les Israélites, c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Vous l'aurez compris, la situation des non-juifs n'est pas la meilleure. C'est l'inverse du peuple juif, loin des autres, loin de Dieu. C'est ça finalement la conclusion. Mais heureusement, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. La seule chose qui peut rassembler les hommes qui se détestent, qui se dévalorisent les uns les autres, qui s'entretuent, c'est la mort de Jésus pour eux à la croix. Il n'y a aucun autre geste de réunion pour tous les autres peuples du monde. On peut mettre des statues, on peut trouver des slogans, mais c'est seulement le sacrifice de Jésus qui nous réunit, qui nous réconcilie. Souvenez-vous de votre situation désespérée avant que Dieu vous sauve, pour que vous puissiez vous réjouir de ce que Dieu a fait pour vous à la croix. Les Éphésiens d'origine juive et non juive sont appelés à comprendre une vérité fondamentale, et je pense que nous aussi. Être réconcilié avec Dieu nécessite d'être réconcilié avec ses enfants. Être réconcilié avec Dieu nécessite d'être réconcilié avec ses enfants, nos frères et sœurs. Et je pense qu'on peut déjà y réfléchir un peu. Est-ce qu'il y a des apparences, des étiquettes qui nous empêchent parfois d'accepter la réconciliation avec Dieu ? Comment les autres vont me regarder si je dis que je suis chrétien, que je crois en Dieu, que j'espère un sauveur ? Est-ce que la situation de l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui va être un frein pour aller vers lui ? Imaginons quelqu'un de très pauvre, un SDF. Est-ce que ça va être un problème pour moi d'aller à sa rencontre ? Et c'est dans la Bible, c'est Paul qui le dit. En fait, ce qui compte, ce n'est pas la circoncision physique, c'est la circoncision du cœur. Est-ce que notre cœur est consacré à Dieu ? Est-ce que notre cœur est consacré à Dieu ? On peut jouer aux chrétiens, on peut se promener un peu partout avec une Bible sous le bras, citer des versets, mais si on ne les applique pas et si on ne le vit pas, on passe complètement à côté. Si on prend les gens de haut, on passe à côté. Et je pense que pour nous, c'est important aussi d'avoir ce temps. Parfois, on se dit « je veux me souvenir ». Ce souvenir, ça doit nous amener à nous réjouir, à nous emmener dans la joie du changement glorieux que Dieu a réalisé en vous au moment de votre salut. Ça a tout changé. De se rappeler, de se souvenir que nous étions séparés de Dieu, mais maintenant que nous sommes unis à Jésus-Christ, il n'y a plus ce fossé. Nous étions séparés de la famille de Dieu, mais maintenant, nous sommes proches du salut. Se rappeler que nous ne valons pas mieux que les autres, parce que ce n'est pas par nos mérites que Dieu nous a choisis, mais c'est par amour. Et Dieu nous appelle chacun à nous réconcilier avec lui, à nous décider pour Dieu ou contre Dieu. Et après, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va un peu développer là, mais où en sommes-nous dans notre façon de voir les personnes ? Est-ce qu'on les classifie ? Est-ce qu'on met systématiquement des préjugés sur eux ? Peut-être parfois même sur des bases de leur origine, de leur apparence, ou peut-être d'une certaine façon de parler, une certaine façon de vivre. Et j'ai envie de dire ça, c'est que dans la culture biblique, on est appelé à former une famille, ce n'est pas toujours facile, on a des différences, on a peut-être parfois des habitudes qu'on a prises depuis longtemps, des lunettes culturelles qui nous empêchent de voir comme Dieu voit, mais je pense que la culture biblique, c'est d'accueillir chacun et de s'aimer, et de trouver des passerelles. C'est ça la culture biblique. la culture qui vise à dévaloriser les autres, à les juger ou à les voir comme inférieurs, ou parfois même avoir de la haine contre eux, c'est la culture du diable. Et Jésus réunit tous les peuples, il réunit ses enfants, et faisons le choix d'être réunis avec les enfants de Dieu. Puis Jésus instaure la paix, les versets 14 à 18. Dans le temple de Jérusalem, au temps de Jésus, c'est le temple qu'on dit d'Hérode, parce qu'en fait, il a eu des rénovations suite au temple de Salomon. Et en fait, il y a trois parvis, donc des cours qui sont au même niveau. Donc, il y a la cour des prêtres, la cour des prêtres, la cour des hommes, la cour des femmes, tous israélites. Mais après, il faut descendre 20 marches pour arriver sur le pavis extérieur réservé aux païens. Et il y a un historien juif qui décrit comme ça cet espace-là. Le chemin par lequel on allait au second temple avait à droite et à gauche une balustrade de 1,50 m de haut, dont l'ouvrage était très agréable, et l'on y voyait d'espace en espace des colonnes sur lesquelles étaient gravés en caractère grec, romain, des préceptes de continence et de pureté, pour faire connaître aux étrangers qu'ils ne devraient point prétendre dans un lieu si saint. Donc les archéologues ont retrouvé une de ces pierres là, que j'affiche, et il y a cette inscription qui est marquée. Aucun étranger ne peut franchir la barrière qui entoure le temple. Celui que l'on surprendra sera responsable de la mort qu'il subira. C'est clair, c'est net. Et c'est pour ça qu'à un moment, Paul a été arrêté, parce qu'il l'avait suspecté d'avoir fait rentrer quelqu'un justement au-delà de ce mur. Il rigolait vraiment pas avec ce principe-là, mais c'était un mur physique qui séparait les Juifs de tous les autres peuples. Verset 14. « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. » Lorsque Paul fait référence à ce mur qui est renversé, il fait référence de manière assez littérale finalement à ce qui va se passer à Jérusalem, et il déclare que ce mur de la haine est renversé. Dans les années 70, les Romains vont détruire tout le temple, et c'est pour ça qu'on a seulement retrouvé deux pierres ainsi, qui sont le témoignage de ce qui s'y faisait, mais tout le reste a été renversé complètement. Jésus, lui aussi, va renverser le mur de la haine dans l'Église, ici parmi nous aussi, pour former qu'une seule Église, un seul corps formé de disciples de Jésus de toutes les origines, juives, païennes, provenant de toutes les nations de la terre. Et là, il faudrait dire un Amen. C'est que Jésus qui peut faire ça. Christ est notre paix. Seul Christ peut accomplir ce miracle, la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les hommes et l'unité des hommes. L'un des autres murs de la haine est formé par les lois qui régissaient l'ensemble un peu des principes de vie des Israélites. Et il était inconcevable, comme je l'ai dit, de manger par exemple avec des païens, parce que déjà, tout simplement, ils ne mangeaient pas la même chose. À ceci s'ajoutaient des barrières physiques, comme la circoncision. Mais Christ a dit, maintenant, tout ça en table rase. On veut être unis par quelque chose de bien plus puissant que des origines ethniques, notre origine d'enfant de Dieu. Verset 16, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il n'y a désormais plus de différence entre les corps, entre la loi, entre notre appartenance à Dieu. La haine envers ce qui est différent est détruite par le sacrifice que Jésus scelle dans une nouvelle alliance, une alliance d'amour. Cette nouvelle alliance, elle nécessite par contre que Jésus souffre et meurt à la croix. C'est cette alliance qui est la plus coûteuse, qui n'ait jamais été contractée, et elle est pour toi et moi. Et je pense que la façon de l'honorer, c'est d'enlever ces murs qui peuvent nous séparer de Dieu, qui peuvent nous séparer des autres. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'y réfléchir de temps en temps. Quels sont ces murs qui me séparent de mes frères et sœurs? Cette semaine, j'ai invité un politicien à participer à une des réunions du CNEF, donc du Conseil National des Évangéliques de France, dans le département, et m'a répondu de manière assez simple. « Je vous remercie, mais je hais toutes les religions qui n'étaient, ne sont et ne seront toujours que des causes de conflits. » Donc j'ai reçu ça, je me suis dit « Merci Seigneur. » Et je me suis dit, mais finalement, il n'a pas du tout une bonne idée de la situation. Déjà, historiquement, en fait, c'est prouvé que ce n'est pas les guerres de religion qui ont fait la majorité des conflits et des morts, c'est plutôt le nazisme, le communisme, qui ont fait le plus grand nombre de morts, en tout cas de tout le XXe siècle. Mais ça, pourquoi pas? Je n'ai même pas répondu ça. Mais ce que dit Jésus, lui, c'est ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père et qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si Dieu dit ça, qu'est-ce qui peut rester de la haine de ce qui peut séparer les personnes? Alors bien sûr, on le vit pas très bien, partiellement ou mieux, mais c'est ça que Dieu nous demande, c'est ce qu'il veut que nous vivions. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Les Juifs étaient proches parce qu'ils ont été depuis des générations dans cette alliance pour connaître Dieu, découvrir son salut, savoir qu'il y a un Messie qui allait venir, qui allait les racheter, les ramener à la maison du Père. Et les païens, eux, ils étaient loin parce qu'ils étaient étrangers à toutes ces révélations. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des bonnes choses pour eux. Mais combien de personnes autour de nous ne savent pas qu'il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour eux? Pour autant, tous ont besoin de paix avec Dieu et entre eux. Les origines, maintenant, ça n'a plus aucune importance. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en chacun de ses enfants. Et par le Saint-Esprit, nous sommes unis et Dieu nous procure la paix. Nous avons accès au Père. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort, le voile qui était dans le temple s'est déchiré et on avait accès au Père. Avant cela, c'était seulement le grand prêtre, une fois par an, qui pouvait rentrer dans cette pièce et qui demandait le grand pardon le jour du Yom Kippour pour tout le peuple. Désormais, nous avons accès à n'importe quel moment à Dieu. Nous pouvons lui parler et nous pouvons lui demander pardon. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux lui demander pardon et dire, je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Je veux me repentir de toutes les fois où j'ai pris des personnes de haut, où j'ai eu des propos qui n'étaient pas adaptés pour des personnes qui n'étaient pas de la même ethnie que moi. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. Il y a seulement Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus construit la famille. Versets 19 et 22. Le sacrifice de Jésus nous donne la réconciliation avec le Père, il nous donne le Saint-Esprit en nous, un nouveau cœur, et il nous donne d'être réconciliés et unis avec les autres disciples. C'est un changement fondamental, normalement, dans notre façon de vivre lorsqu'on rencontre Christ, parce que tout ça s'est remis à plat. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes citoyens. À Éphésiens, il n'y avait pas beaucoup de citoyens, des citoyens romains, il y avait parfois des résidents temporaires, beaucoup d'esclaves. Maintenant, vous n'êtes plus étrangers, vous êtes des citoyens du royaume de Dieu avec tous les avantages qui en découlent. Et Dieu est le roi de ce royaume et nous sommes des concitoyens. Nous sommes une famille, Dieu est le père de la famille et nous sommes les enfants qui sommes co-héritiers de Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de combien c'est glorieux? Nous avons accès à Dieu le Père et nous héritons de tout ce qu'il a créé. Et c'est là où je me dis, mais c'est seulement Dieu qui peut créer cette famille avec des personnes aussi différentes. J'ai lu il y a quelque temps le récit d'un pasteur qui disait qu'il avait invité le maire à participer à un culte un peu ordinaire. Et en fait, à un moment, il lui a demandé juste de dire un mot. Et en fait, ce qui l'a frappé, c'est de dire, mais comment vous faites pour rassembler autant de personnes différentes, de tous les âges, de tous les milieux, de différentes ethnies différentes, en un seul endroit, et ça tous les dimanches. Nous, on investit des dizaines de milliers d'euros par an pour essayer de faire un équivalent, et ça ne marche pas. Ce n'est pas les hommes, c'est seulement le Christ qui peut faire ça. Et je pense que parfois, il faut qu'on apprenne à apprécier ce que Dieu nous donne parmi nous, et c'est ce qu'on vit dans notre quotidien ici, dans notre Église, et je pense qu'on peut remercier Dieu pour cela. Et enfin, il y a ce nouveau temple. Vous savez qu'avant, il y avait un seul temple, un seul à Jérusalem. Donc même si vous habitiez à Éphèse, par exemple, vous deviez aller jusqu'au temple si vous vouliez apporter votre sacrifice, et ainsi de suite. Maintenant, il y a un nouveau temple. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'on est tous alignés sur Jésus. C'est en lui que tout l'édifice est bien coordonné et qui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte que lorsqu'on se réunit là, nous sommes l'habitation de Dieu. Les bâtiments ici, c'est des pierres, du placo. Mais ce qui a vraiment de la valeur, c'est qu'on est tous ensemble. C'est là où Dieu y réside. Et moi, je me pose quand même cette question-là que je voudrais partager avec vous. C'est que, est-ce que vous pensez que le temple, c'est, on a vu, c'est qu'on est réunis, mais est-ce que c'est seulement quand on est réunis le dimanche? Ben, c'est toute la semaine. C'est à chaque fois que vous vous réunissez, peut-être à deux, c'est ce temple qui est mini-formé. Mais en fait, il y a cette communion spirituelle qui est permanente lorsqu'on adhère à notre Église, qu'on adhère au fait de vivre pour Dieu. Et je voudrais juste peut-être parler peut-être de quelques fausses idées qui circulent et que parfois on a vues et qu'on a observées. Peut-être parfois on a du mal à trouver des repères aussi en tant que jeune chrétien ou peut-être chrétien depuis plus longtemps, mais on a besoin parfois de revenir un peu à l'essentiel. Donc vous ne vous sentez surtout pas visé, mais c'est plus pour dépoussiérer et enlever peut-être des idées préconçues ou peut-être des questions taboues. Premièrement, aller à l'église ou assister au culte le dimanche, bah c'est une bonne chose, surtout si vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous n'étiez peut-être pas rentré trop tard de votre sortie de la veille. Parfois, aller à l'église, c'est un peu comme une sortie cinéma, concert, musée ou la fête du quartier. On espère un programme qui est agréable, mais pour nous faire nous sentir bien, avoir un peu de contact social. Mais finalement, surtout quand il fait beau, bon, pas aujourd'hui, mais... pourquoi s'enfermer dans un bâtiment pour chanter, ouvrir la Bible semaine après semaine? Est-ce que c'est juste pour me donner bonne conscience? Et c'est là que j'ai envie de te dire, mais ne va pas à l'église. Ne va pas à l'église. Sois à l'église. Si c'est seulement le fait de franchir une porte que tu penses que tu es dans l'église, c'est pas ça. Être dans l'église, c'est faire partie de cette pierre qui est imbriquée avec les autres, qui est édifiée par Dieu. Deuxièmement, consommer l'Église. Choisir l'Église peut-être en fonction de ses besoins ou de ce qu'on ressent. Est-ce qu'il y a assez d'activités pour les enfants, pour les jeunes, pour les jeunes adultes? Parce que peut-être on a besoin des besoins sociaux. Parfois, on a besoin aussi de chercher des amitiés qui sont parfois un peu fusionnelles, mais ce n'est pas ça l'Église. Est-ce que c'est parce que je veux être avec un public jeune, un public vieux ou un public ethnique, des personnes qui parlent peut-être la même langue que moi de maternelle? Bref, on cherche des services et du contact social. Et certains iront même parfois à revendiquer, mais en fait, vous devriez me donner ceci et cela. Mais j'ai envie de te dire, ne consomme pas l'Église. Contribue l'Église. Contribue à l'Église. Édifie l'Église. C'est pour ça qu'on a ces temps de prière où on veut s'édifier les uns les autres, s'encourager. Puis il y a l'exemple parfois inverse que j'ai rajouté un peu à la fin. C'est que parfois, on a l'impression qu'on va à l'église pour faire un service. C'est un peu le lieu pour faire une bonne action, parce que comme ça, on se sent mieux. J'ai envie de te dire, mais ne fais pas ça. C'est super de faire un service, et dans notre église, on souhaite intégrer chacun, même si c'est peut-être pas encore engagé avec Dieu, un service, parce que ça permet d'être au contact des uns et des autres, et puis de voir comment les uns et les autres vivent et font confiance à Jésus. Mais j'ai envie de t'encourager, mais vis l'église. Ne le vois pas comme une façon de faire une bonne action seulement. Troisièmement, c'est flirter avec l'Église. Ça consiste à chercher principalement son propre intérêt dans cette relation et de rester centré sur soi, parce qu'on veut rester indépendant, on ne veut pas s'engager. Ça réduirait peut-être aussi parfois notre faculté à papillonner vers quelque chose qui nous offrirait d'autres services, d'autres avantages. J'ai envie de t'encourager. Et je sais qu'il y a toujours un petit temps pour trouver ses marques dans l'Église. Donc, si vous venez la première fois, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin de signer « Je veux être membre de l'Église aujourd'hui ». Mais si, ça fait des années. et que finalement il n'y a pas un engagement réciproque où tu te retrouves et où l'Église se retrouve avec toi, c'est que peut-être il y a besoin de poser quelque chose. Ne flirte pas avec l'Église, engage-toi avec ton Église. Bien sûr, ce sont des caricatures, c'est très simplifié, et je pense que derrière, parfois, il y a aussi des blessures, il y a des choses où vous avez pu être frustré, désillusionné par l'Église. Pas ici, bien sûr, ici c'est parfait. Non, je ne veux pas simplifier comme ça, mais par contre, je voulais quand même donner un peu des schémas de pensée et que chacun puisse se dire, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que peut-être j'ai besoin de remettre un peu des choses à plat? Est-ce que j'ai besoin peut-être de sonder mon cœur pour savoir où j'en suis avec Dieu, où j'en suis avec mes frères et sœurs? Et ne le voyez pas comme des raccourcis. Hein. Loin de là, j'ai essayé de le faire un peu sous forme humoristique. Mais c'est vraiment l'occasion en fait, de se poser la question, où j'en suis? Vous savez, Jésus, il présente souvent, Paul présente Jésus et l'Église comme un mariage, en fait. Et c'est vrai que par moments, dans le mariage, bah, pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, qui hochent la tête, ne le faites pas aussi fort, s'il vous plaît. Il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où on peut être frustré, des moments où on peut être désillusionné, mais en fait, à un moment, ce qui reste, c'est cet engagement qu'on a pris de s'aimer et de construire quelque chose ensemble. Et j'ai envie de vous encourager à faire la même chose dans l'Église. Des moments peut-être où c'est un peu plus difficile, mais... Prenez vraiment, rappelez-vous que vous voulez construire et faire des choses ensemble, parlez-vous. Parce que Dieu, on l'a vu, il a des grands projets pour nous. C'est un lieu d'amour, d'unité et où on peut voir la gloire de Dieu. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager à cela. Et je voudrais finir aussi par un dernier point qui est aussi un peu sensible. Vous avez vu, ben, on a parlé plus ou moins de racisme, en tout cas parfois de dévalorisation des uns par rapport aux autres. Et je ne pense pas que c'est nécessaire de rentrer trop dans les détails, mais je nous encourage quand même à... Parfois, on peut avoir l'impression que finalement, on n'a pas une mauvaise vision générale d'un ensemble de personnes d'une même ethnie. Mais par contre, parfois, il y a quand même des propos qui ne sont pas à leur place. Et je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir se sonder personnellement et de savoir ben, où est-ce qu'on ne prend pas parfois un peu des raccourcis. Est-ce que parfois, on n'a pas aussi... un œil qui est culturel ou peut-être une tradition familiale ou autre par rapport à un regard qui, lui, est biblique, qui est Dieu à ses enfants, ils sont tous égaux. Et aussi, peut-être il s'est passé des choses dans l'Église avec des propos qui n'étaient pas adéquats. Je vous encourage aussi à aller vers les personnes à un moment propice et puis évoquer cela ensemble parce que je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être vues dans la lumière avec des demandes de pardon. Et aussi une bonne prise de conscience de ce qui n'est pas acceptable. Donc je vous propose de prier. Oui Père, je te remercie parce que tu as décidé de venir nous rejoindre dans ce monde qui est plein de souffrances, qui est plein de séparation en tout genre, parce que au milieu de nous se trouve la haine dans ce monde. Mais toi, tu es venu apporter la paix, l'amour qui est désintéressé. Et on te prie, s'il te plaît, de vivre comme tes enfants qui sommes centrés sur toi et qui trouvent des ressources nouvelles à construire plutôt que de détruire. Je te prie, s'il te plaît, qu'au milieu de nous, dans notre Église, qu'il n'y ait pas de haine, mais de l'amour, qu'il n'y ait pas de séparation, mais de la réunion et de l'unité, et que nous soyons surtout dirigés par ton Esprit Saint et non pas les pensées du monde, les pensées d'une certaine culture, mais que nous soyons centrés sur toi, toujours prêts à aller de l'avant. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment de sonder nos cœurs, de nous amener à grandir dans ta connaissance et dans la juste pratique de notre foi. Et je te prie, s'il te plaît, pour tous nos amis, on l'a vu, sans Dieu dans le monde et sans espoir, que reste-t-il? Je te prie, s'il te plaît, que tu fasses briller la lumière dans cette région, que personne ne soit attiré par toi, et que tu te serves de notre Église. Pour qu'un grand nombre puisse te connaître, te louer, t'adorer et vivre aussi cette communion entre frères et sœurs dans notre Église. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.